Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Lundi prochain, le 27 avril, France 2 diffusera la 27e nuit des Molières, dont le maître de cérémonie sera Nicolas Bedos. Europe 1 en profite pour mettre le théâtre à l'honneur, et notamment Nikos recevra Nicolas Bedos ce samedi de 11h à 12h30. Quelque chose me dit que Franck Ferrand sera à l'écoute. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Vous commencez à me connaître Ombline. C'est vrai que j'admire le talent de Nicolas Bedos et par ailleurs j'adore le théâtre. L'émission d'aujourd'hui est dédiée au premier, consacrée au second, à travers le destin d'un des plus grands auteurs de théâtre qui soit, Anton Tchekhov. Et pour nous aider à cerner sa personnalité, j'ai convié à nous rejoindre Vladimir Fedorovski, qui par ailleurs nous parlera d'un certain nombre d'autres grands amoureux, grandes amoureuses de la Russie. Son livre s'appelle, vous allez voir comme le titre est beau, La volupté des neiges.
Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nathalie sur l'origine des noms de villes.
Pour le moment, les villes qui nous occupent sont Moscou, Sébastopol, Taganrog, les villes de la Russie éternelle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La médecine est ma femme légitime, la littérature est ma maîtresse. Quand l'une m'ennuie, je vais passer ma nuit avec l'autre, avait coutume de dire Anton Tchekhov, le plus grand dramaturge russe et sans doute un des plus grands de toute la littérature. L'auteur d'Ivanov, de La Mouette, donc le Vania, de Trois Sœurs, de La Cerisaie évidemment, Anton Tchekhov est l'écrivain qui a pénétré le plus dans les tripes de la société russe et de la nature humaine, nous dira tout à l'heure Vladimir Fedorovski. Cette société russe, c'est à l'époque, on est à la toute fin du 19e et au tout début du 20e siècle. C'est la société des petits paysans et des prêtres anonymes, celle des babouchkas, celle aussi des soulèvements ouvriers, des déportations en Sibérie. C'est bien sûr la Russie des tsars, mais une Russie des tsars déjà dépassée par celle des hommes d'affaires. C'est la Russie des forêts de bouleaux traversées par le chemin de fer et des clochers à bulbes renversés par les grands hôtels. Tchekhov incarne cette transition, il est un pont entre le temps révolu de la Russie immobile, de ses maîtres de la terre, de ses seigneurs qu'on appelait les barines, et il y avait tout l'éclat des tsars, bien entendu, et le temps des tourments, des tragédies du XXe siècle. Une Russie qui entre déjà dans un bouillonnement, dans une effervescence sociale et politique telle qu'elle n'en avait jamais connue, en tout cas dans de telles proportions. La médecine est ma femme légitime, la littérature est ma maîtresse, disait donc Tchekhov. Une femme va tout de même réussir à se faire une place dans le cœur du dramaturge, et ce faisant, elle aura une grande influence sur son œuvre. On pourrait presque dire que dès lors, elle aura une grande influence sur les mentalités russes. Mais avant de rencontrer cette femme, rejoignons, si vous le voulez, Tchekhov dans ses jeunes années. Il a vécu ses premières années, le petit Anton, dans le magasin de son père. Il tenait la boutique. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec Vladimir. Il était né en janvier 1860 à Taganrog. C'est une ville intéressante parce que c'est là qu'était mort ou qui est réputé être mort le tsar Alexandre Ier.
Vous me bluffez parce que c'est un des secrets de l'histoire, si vous me permettez, de la Russie éternelle.
Exactement.
Et vous l'avez
percé. Alors, est-ce que le tsar est mort à Taganrog ou est-ce qu'il a fait semblant de mourir? C'est une autre histoire. On n'ouvrira pas, évidemment, la question. On n'ouvrira pas le dossier aujourd'hui. Néanmoins, l'enfance du petit Tchekhov est difficile. Dans mon enfance, je n'ai pas eu d'enfance, dira-t-il plus tard, avec cet humour désenchanté qu'il prêtera si souvent à ses différents personnages. Son père est sévère, caractériel. Faut imaginer une enfance au coup de fouet, quand le père entre dans des colères noires. Faut imaginer les larmes de repentir à genoux devant les icônes. Enfin, on est vraiment dans cette culture russe, bien entendu. Quatre frères, une sœur, Masha. Tout ce petit monde au bord de la misère, et une misère sans doute, qui va aiguiser la perception que le jeune Anton aura du monde, va sans doute aussi forger sa volonté d'échapper à la monotonie d'une vie qui paraît être sans cesse recommencée et sans perspective et sans espoir, d'autant plus qu'il est, vous l'aurez compris, d'une sensibilité exacerbée, ce jeune Anton, qu'il est très doué, il va parfaitement réussir ses études, des études de médecine, qu'il entreprend contre toutes les traditions de son milieu et qu'il va parfaitement réussir. Il faut vous dire qu'il a une volonté d'acier dans la volupté des neiges. Vladimir Fedorovski, dont vous aurez compris qu'il est déjà assis ici avec nous dans ce studio, écrit, je le cite, « En vérité, il était un vrai fils du XIXe siècle, par son intelligence orientée vers les sciences exactes, par sa profonde foi dans le progrès et même par l'impressionnisme de son style. Il savait que quoi qu'il en soit, sur cette terre, nous ne pouvons rien comprendre. » Ça, ce sont les termes mêmes de Tchekhov. « Seuls les imbéciles et les charlatans comprennent tout. » Ça, c'est Tchekhov toujours, bien sûr, mais c'est aussi l'état d'esprit général des Russes hein, qui donne toujours aux, comment est-ce qu'on pourrait dire, aux starets, aux vagabonds, aux illuminés, une sorte d'intelligence suprême. Il la leur prête, en tout cas. Tchekhov sort diplômé de la faculté de médecine en 1884. On n'est pas très longtemps après l'assassinat du tsar Alexandre II. On est dans cette période de grande agitation souterraine dans la société russe. Il ne faut pas oublier que Lénine va bientôt se manifester dès 1891. À l'époque, Anton a 24 ans, puisqu'il est né en 1860, et il n'a déjà plus que 20 ans à vivre, car, et c'est peut-être un des secrets de ce destin assez fulgurant, qui est un peu celui d'une étoile filante, c'est que la vie de Tchekhov aura été fort brève, somme toute. Donc, Anton a entrepris ses études de médecine, il est diplômé, il est médecin, il va prendre un peu les rênes de la famille, il faut bien le dire. Ses frères sont tombés, pour la plupart, en tout cas dans une sorte de déchéance. Et en dehors de ses visites à ses clients, à ses visites médicales, si je puis dire, d'ailleurs il se fait pas payer par tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, il se met à écrire des articles, des nouvelles pour les journaux. Alors il écrit ça comme ça, il faut imaginer la lampe à pétrole, bien sûr, on est sur un coin de table, il y a le brouhaha familial et Anton qui écrit sous le regard fasciné, admiratif de sa petite sœur Masha, qui est peut-être le grand personnage et le personnage quasiment absent en même temps de sa vie. Elle fait penser, vous savez, à cette petite fille qu'on voit traverser la ronde de nuit sur le grand tableau de Rembrandt. Elle est là et en même temps, personne ne sait qui elle est vraiment. On va y venir tout à l'heure, car puisque Vladimir aime les énigmes, celle-ci est une énigme à percer, bien entendu. Anton n'a pas une santé très solide. Il va bientôt contracter la tuberculose. C'est la grande maladie de l'époque. Bien entendu, il faut l'imaginer toussant et toussant de plus en plus et crachant du sang. Il n'a, somme toute, de vrai plaisir que dans l'exercice de sa médecine et dans l'écriture de ses textes. Alors, au début, il n'a pas l'impression, lui, de faire des choses particulièrement remarquables. Ce sont des textes parmi d'autres. Sauf qu'un jour, un écrivain très populaire dans la Russie de l'époque, qui s'appelle Dmitri Grigorievitch, vient le voir et lui dit « Mais vous êtes extraordinaire, j'ai pour vous une grande admiration, vous êtes doué d'un talent immense ». Évidemment que Anton va le croire, il se voit d'un seul coup pousser des ailes et il se dit que la littérature est peut-être après tout sa véritable vocation.
Tchaïkovski sur Europe 1, c'était la valse sentimentale. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Anton Tchekhov.
Prix.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La Russie est au cœur de l'histoire et Franck Ferrand, vous nous racontez le destin du grand dramaturge Anton Tchekhov.
Si j'en crois Vladimir Fedorovski, et j'ai fortement tendance à le croire, notre Tchekhov était convaincu, je le cite, que c'était de justice que les Russes avaient le plus grand besoin et qu'ils pouvaient contribuer à son avènement, à l'avènement de cette justice, en soignant. Vous voyez qu'il ne perd jamais de vue cette profession de médecin qui est la sienne. D'ailleurs, je dis profession, on pourrait parler de là de vocation. Un médecin qui se considère quasiment presque autant comme un agent social que comme un diagnosticien, du reste. Et en écrivant, bien entendu, on est dans ces années 1890 où la Russie est le théâtre de famines terribles, le choléra sévit dans les campagnes. On n'imagine pas à quel point ce pays, par ailleurs si moderne et qui est en pleine explosion, avec ses capitaux qui affluent d'Europe occidentale et qui permettent de bâtir une industrie, de bâtir des infrastructures dans toute, au moins dans toute la partie ouest de la Russie, on n'imagine pas à quel point, par ailleurs, tout ça s'accompagne quand même de la rémanence de conditions de vie très dures. Et l'amour dans tout ça, me direz-vous, on y vient. Tchekhov, dans un premier temps, ne lui accorde pas vraiment d'importance. Il faut vous dire que la tuberculose ne devait pas le prédisposer aux projets conjugaux. Il savait tout de la maladie. Il savait qu'il n'avait sans doute pas tellement à vivre. En même temps, c'est une maladie et un traitement qui ont tendance à stimuler l'appétit sexuel. Donc il y a des besoins incontestables chez Anton Tchekhov. Il voltait d'une fleur à l'autre sans intention de se poser ni de fonder une famille, nous dit Vladimir. C'était sans compter avec une rencontre théâtrale, nous allons le voir. Voilà comment Vladimir Fedorovski décrit Tchekhov. C'est qu'il plaisait beaucoup, dit-il. Il était joli garçon, avec des traits réguliers, une bouche pulpeuse et bien dessinée, ses beaux yeux noirs légèrement bridés qui trahissaient des ascendances tatars et ses cheveux drus dont les mèches tombaient sur son grand front. Il séduisait beaucoup, mais aucune de ses conquêtes n'était parvenue à leur tenir. Il n'avait pas davantage tenté d'en retenir une. Et oui, c'est peut-être ça aussi. Il a un intérêt très vif pour les femmes, c'est incontestable. On le ressent dans son travail littéraire, on en parlera tout à l'heure. C'est sans doute ce qui fait le charme de ses œuvres, qu'elles soient épouse, maîtresse, actrice, institutrice, paysanne, lavandière, prostituée, entrepreneuse. Les femmes sont là au cœur de l'œuvre de Tchekhov, bien entendu. Quand la rencontre a lieu, il est en train de se consacrer au théâtre. Jusque-là, il écrivait avec plaisir, mais sans grand attachement à ses œuvres. Tout va changer quand il commence à créer vraiment pour la scène. Il avait écrit une première pièce, Ivanov, puis une première version, donc le Vania, et c'est en 1895 que paraît la Mouette. D'ailleurs, la Mouette sans aucun succès. Il faut le dire, ça n'a pas toujours été un théâtre de succès, le théâtre de Tchekhov, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, dans le monde entier. Sa santé s'aggrave à l'époque, il doit s'en aller à Nice pendant un certain temps pour essayer d'échapper au terrible hiver continental. L'hiver passe, il est épuisé, il est triste, et là, deux amis, Vladimir Nemirovitch Datchenko et Konstantin Stanislavski vont créer le théâtre d'art de Moscou. C'est très important cette création parce qu'il y a là une ambition qui est de programmer des œuvres à la fois exigeantes, évidemment à l'époque j'allais dire on n'aurait même pas envisagé autre chose chez ces gens, mais des œuvres destinées au grand public. Et ce sont eux qui vont demander à Anton de leur écrire quelque chose. Et vous voyez que la rencontre arrive, je vous sens impatient, mais elle arrive. Tchekhov va s'y mettre et va s'y plonger dans cette œuvre. Il a 38 ans, la solitude lui pèse de plus en plus à l'époque, et il écrit dans ses carnets « De même que je serai couché seul dans ma tombe, de même, somme toute, j'aurais vécu seul. » Ça, c'est le genre de constat que Tchekhov est un des rares, non seulement à faire, ça nous faisons tous plus ou moins de temps en temps ce genre de constat, mais lui va jusqu'à les exprimer et jusqu'à les écrire et même jusqu'à les faire dire à ses personnages. Il est invité à la dernière répétition du Tsar Fédor, qui est un drame historique de Tolstoï, choisi pour inaugurer le fameux théâtre de Moscou, théâtre d'art. Voilà ce que nous raconte Vladimir Fedorovski. Il se cala dans un fauteuil au troisième rang pour assister au spectacle. C'était le 9 septembre 1898. Il faisait un peu lourd dans la salle et on s'agitait autour de lui. C'est alors qu'il la vit entrer sur scène et commençait de jouer. Il frissonna. Elle avait une voix magnifique, claire, chaude, pleine, délicieusement modulée. Il remarqua aussi l'ardeur de son jeu. Il avait vraiment sous les yeux le personnage clé du drame. Il fut subjugué. Il avait 30 ans, elle était de petite taille, elle était dotée d'yeux extrêmement noirs et brillants comme des braises. Sa lourde chevelure qu'elle relevait en chignon sur la tête était splendide surtout. Elle avait ce timbre superbe qui prenait dans ses filets tous ceux qui l'écoutaient et elle jouait exactement comme il ne cessait de le recommander, comme si elle était dans la vie réelle. Qui est-elle, cette comédienne qui va littéralement fasciner Tchekhov? C'est Olga Leonardovna Knipper, la Knipper, si je puis dire. Quand il lui demande si elle est mariée, elle répond « Non, 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 je n'ai qu'une passion, le théâtre. Oh, c'est une femme de caractère. Elle a en elle la force. Son parcours n'a pas été facile. Toujours est-il qu'elle était là à participer à l'expérience de théâtre la plus révolutionnaire peut-être, sûrement la plus enthousiasmante qu'on eût vue à Moscou depuis très longtemps. » Anton Tchekhov, je vous l'ai dit, n'était pas du genre à s'attacher, pour des raisons que vous aurez maintenant comprises. Néanmoins, il est tombé sous le charme, et il est tellement tombé sous le charme que cette fois, oui, sa vie va basculer.
Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire consacrée au théâtre cet après-midi. Et Franck Ferrand, vous nous parlez de l'un des auteurs les plus connus de la littérature russe, Anton Tchekhov.
Anton Tchekhov vient d'inviter Olga à venir passer un petit séjour à une 60aine de kilomètres au sud de Moscou, dans une maison qu'il occupe très souvent, dans la petite ville de Lopasnia. Au pas seul, bien sûr, avec un certain nombre des comédiens de la troupe. Et puis sur place, de toute façon, il y a la famille, toujours. Olga est charmée, elle est charmée par le lieu, sans doute, par l'atmosphère poétique qui règne là, mais surtout, évidemment, elle est charmée par Tchekhov lui-même. Et lui aussi la trouve gaie, spirituelle et séduisante. Au retour, elle prend la direction du Caucase, elle s'en va chez son frère, et il lui écrit, ça va être le début d'une longue correspondance, plus de 500 lettres échangées entre eux. Elle l'invite à son tour le 18 juillet 1899. Il la rejoint à Novorossiysk et ensemble ils vont prendre le bateau en direction d'Yalta, là où il est en train de construire sa nouvelle demeure, la datcha blanche, parce que les médecins lui ont dit « Il suffit plus maintenant d'aller passer quelques mois par an au soleil, il faut que vous y restiez au soleil ». Et ils vont passer là des jours absolument délicieux. Vladimir nous dit, ils passèrent leur journée à flâner, à lézarder au soleil dans des chaises longues, à parler théâtre. Bref, un délice. C'est l'heure du retour à Moscou. Olga est maintenant seule dans son appartement, rongée par la nostalgie de ces quelques journées extraordinaires. Lui part pour la Crimée. Elle se promet d'attendre de ses nouvelles. En fait, elle ne va pas tenir. Elle tient 4 jours et elle lui écrit « J'étais si triste quand vous êtes parti. J'avais le cœur si gros que j'aurais pleuré tout le long du chemin. Avant de m'endormir, j'étais avec vous en pensée. » Et il lui répond avec des mots tendres, de plus en plus tendres. Il est évident que lui maintenant aussi est très attaché à elle. L'hiver 1900 est si rude. La troupe décide de débarquer à Sébastopol, qui est une belle ville bien ensoleillée de Crimée, pour jouer devant Tchekhov, La Mouette et Oncle Vania. Sébastopol puis Yalta fêtent la jeune troupe et leur auteur fétiche. « À partir de ce voyage, écrit Vladimir Fedorovski, ils surent qu'ils étaient amoureux et qu'ils avaient envie de se le dire et de le vivre dans les bras l'un de l'autre. » Elle le rejoint donc dès que le théâtre le lui permet. Ils passent des moments extraordinaires, des étés merveilleux notamment, mais impossible pour lui de la suivre à Moscou, toujours à cause de ce froid, de cette humidité de la capitale, bien entendu, enfin de la capitale, la grande ville de la Russie à l'époque. Il en sera toujours ainsi. Même s'ils avaient veillé à ce que personne ne sache rien de cette histoire, inutile de vous dire qu'autour, tout le monde est au courant. Personne n'est dupe. Un jour, elle lui écrit pourtant « Je suis fatiguée de cette cachotterie. Viens dès les premiers jours, nous nous marierons et nous vivrons ensemble. Écris-moi tout, la moindre petite vétille et ne t'en tire pas éternellement avec des plaisanteries. » Que faire? Anton a bien l'intention cette fois de s'engager. Vladimir nous raconte qu'il s'en était ouvert à Souvorine, son éditeur, qui insistait pour qu'il se marie. « Soit je me marie, dit-il, si c'est ce que vous voulez, mais voici mes conditions. » Tout doit rester comme avant, c'est-à-dire qu'elle devra vivre à Moscou et moi à la campagne et que je lui rendrai visite. Le bonheur qui dure jour après jour d'un matin à l'autre, je ne peux pas le supporter. Quand on me dit la même chose sur le même ton tous les jours, je deviens furieux. Je promets d'être un mari merveilleux, mais donnez-moi une femme qui, comme la lune, n'apparaîtra dans mon ciel tous les jours. » Les noces ont lieu le 25 mai 1901. Tchekhov insiste pour qu'il n'y ait que les quatre témoins. Il n'y a même pas les amis proches. Olga ne le savait pas, mais une des raisons qui a fait hésiter Tchekhov, c'est qu'il a appris que cette fois la maladie s'est emparée de lui, que son état de santé va se dégrader de plus en plus et que vraiment l'avenir est très sombre. On parle de leur amour, mais évidemment, dans la correspondance entre Anton et Olga, c'est surtout de théâtre qu'il est question, car c'est leur passion, à l'un comme à l'autre. Il est question de sa carrière à elle, il est question de ses pièces à lui. Elle lui pose notamment des questions sur les personnages qu'elle interprète, sur le sens de certaines répliques. Il écrit les pièces en pensant à elle sur scène, et c'est peut-être ce qui maintenant encore, ce qui en 2015 les rend toujours si vivantes, ces pièces extraordinaires. Pour Anton Tchekhov, nous dit Vladimir, elle était la femme qui portait à la lumière avec un talent éclatant les héroïnes d'encre et de papier qu'il confectionnait dans la solitude de sa datcha. Mais elle était aussi celle qui vivait cette passion pour lui, non par procuration, mais dans une sorte de gémellité lumineuse. Bonjour Vladimir Fedorovski.
Bonjour Franck Ferrand.
On vous a déjà entendu à ce micro tout à l'heure.
Et j'ai pas perdu mon accent.
Non, heureusement, nous sommes en Russie aujourd'hui et c'est un peu grâce à vous que nous y sommes.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
L'un des plus grands dramaturges des temps modernes, Anton Tchekhov, est au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand, vous recevez l'écrivain et ancien diplomate Vladimir Fedorovski, auteur de La Volupté des Neiges, qui paraîtra le 7 mai aux éditions Albin Michel.
Que 7 mai, Volupté des Neiges va paraître la semaine prochaine.
Le 30 avril.
Oui, tout à fait, le 30 avril. Mais enfin, vous savez, c'est un des livres très importants pour moi. C'est antithèse de mon Poutine que j'ai fait précédemment. C'est plus, tout le monde a lu le roman de Saint-Pétersbourg. Vous avez lu le roman de Saint-Pétersbourg. C'est les livres qui font rêver, mystère et amour et évasion. Et c'est la devise de la volupté de neige.
Pour le moment, nous sommes avec Anton Tchekhov. Et évidemment, cette fin de vie va être terrible. Parce qu'il a enfin trouvé l'amour. Ils ne passeront ensemble avec Olga que l'été de l'année 1903. Hein. C'est quand elle repart, il n'a plus vraiment envie d'écrire. Il a des doutes d'ailleurs sur sa dernière œuvre qui est la Cerisée. Le dernier acte finalement sera terminé début 1904. Il est vraiment très malade. Là, il a eu déjà deux crises cardiaque. Il va voir la Cerisée à Moscou, ça c'est extraordinaire, et accueilli par des tonnerres d'applaudissements. Quelle pièce, il faut dire. Il y a quand même une chose, alors je vais faire ce qu'on appelle du spoiling, mais quand on voit la Cerisée pour la première fois, on est sidéré par cette scène finale. On est dans cette, il faut imaginer, hein, dans cette espèce de grande propriété éternelle au milieu des cerisiers, bien entendu. Et puis il y a ces aristocrates qui ne comprennent pas qu'un autre monde est en train de devenir, que le monde capitaliste est là, qui pousse aux portes, et l'industrie et la révolution aussi, bien entendu. Et puis la propriété sera finalement vendue et à la fin, on a oublié, c'est terrible parce qu'on a oublié le maître d'hôtel, le vieux serviteur qui était là depuis l'époque d'avant l'abolition du servage, qui était un peu l'âme de la famille et de la maison, et tout le monde est parti précipitamment. Il est là, il est resté dans la maison, il s'assied et l'on entend autour de la maison devenue une sorte de grand sépulcre, on entend tomber, enfin d'abord les coups des haches des bûcherons, et puis on entend tomber les cerisiers un à un, et c'est comme ça que s'achève la Cerisée. Vous imaginez, bien sûr, le public est transi d'admiration. Néanmoins, ce que le public ne sait pas à l'époque, c'est que Tchekhov est tout à fait à la fin de sa vie. Elle va, Olga, l'accompagner en Allemagne, suivre une cure. Et voilà ce que nous raconte Vladimir dans La Volupté des Neiges. Elle lui tenait la main, dit-il, il souriait. Elle lui donnait des nouvelles de ses pièces qui se jouaient dans toute l'Europe. La Cerisée remportait un beau succès. Le 15 juillet, il se sentit mieux, presque dispo. Il lui demanda une coupe de champagne. Il but sa coupe, puis il lui sourit et lui dit soudain, l'air un peu étonné, « Je meurs ». Et c'est ainsi qu'il rendit son dernier souffle, Vladimir.
C'est extraordinaire, cette scène. Champagne, et puis « Je meurs ». Extraordinaire, Tchekhov.
C'est théâtral.
C'est théâtral, c'est Tchekhov. Vous savez, j'ai hésité, il fallait choisir pour la volupté des neiges des personnages. Je vais vous dire, dans ce livre a été conçu il y a beaucoup d'années, quand il y a un grand personnage de là-bas m'a donné les lettres d'amour encore de Catherine II. Ou Catherine II, inédite Catherine II.
Mais on y viendra tout à l'heure.
Mais je vais vous dire, et j'ai cherché les personnages qui incarnent les choses. L'amour bestial, évidemment, c'est Tolstoï. Et puis, elle dit, Catherine, c'est pas l'esprit de l'escalier, c'est pas la rencontre, c'est la force de souvenir. Et j'ai cherché qui peut incarner ça. Et finalement, c'est le préféré de Franck Ferrand, c'est Anton Tchekhov.
Oui, Tchekhov est sans doute le dramaturge. Vous savez, moi, quand je vais voir, c'est arrivé hier, pour tout vous dire, des tableaux de Velázquez, j'ai envie de peindre. Et bien, quand j'assiste à une pièce de Tchekhov, j'ai envie d'écrire du théâtre. On a l'impression
Vous faites du théâtre.
Oui, si l'on peut dire, d'une certaine manière, très improvisé néanmoins. On a l'impression avec Tchekhov que tout est simple, que tout est lumineux. Les personnages sont au moins aussi théâtraux que réels. C'est, comment expliquer ça? On sait, pendant qu'on assiste à la représentation, quelle que soit la mise en scène, quelle que soit, etc., on sait qu'on est au théâtre et pourtant c'est bien la vie, c'est bien quelque chose d'universel qui se déploie sous nos
absolument.
Yeux.
Absolument. Universel, c'est le mot qu'on retrouve. Il y a un aspect, tout d'abord, il y a l'aspect profond, on a parlé tout à l'heure. La culture russe est universelle. Et Tchekhov, c'est le plus universel de la culture russe. Évidemment, c'est là-bas. Et puis, Tchekhov, c'est éminemment moderne. Tolstoï, c'est le 18e siècle. Dostoïevski, c'est le 20e siècle. Tchekhov, c'est le 21e siècle.
Quand vous dites Tolstoï, c'est le 18e siècle, il écrit au 19e. Mais enfin, on est encore dans
oui,
la tradition.
Mais on est dans ses fantasmes.
Oui, voilà.
Tolstoï, pour moi, c'est un grand. C'est dans La volupté de neige, Tolstoï et Tchekhov, c'est antithèse carrément. Parce que Tolstoï, il dit tout.
Ah oui,
vous
oui.
savez, je fais
beaucoup plus brutal.
Tolstoï, dans mon livre, je fais ce Tolstoï érotique. Dans la réalité, c'est une sorte de, comment vous dire, de DSK mystique, Tolstoï. Tandis que Tchekhov, tout est suggéré. Rien n'est dit. Et vous allez voir, vous avez parlé de ces pièces, mais dans mon fort intérieur, je place les nouvelles de Tolstoï.
Ah oui.
Au plus haut. Cette nuit, tout est. Nous ne choisissons rien. Je me suis réveillé et je prends au hasard. Et c'était la dame opticien de Tchekhov dans ma bibliothèque. J'ai pris Tchekhov par hasard et je regarde, rien ne se passe. Juste une petite rencontre dans le midi de la Russie, une femme, un homme. Mais c'est beaucoup plus fort que les écrits de Tolstoï où il raconte ses exploits charnels, tout. Et Tchekhov, tout est suggéré. Et vous êtes bluffé. L'atmosphère de Tchekhov, vous avez si bien dit, et si bien présenté, sa meilleure pièce pour moi aussi, la série Z comme la dame de Petit Chien, relisez Tchekhov et vous allez retrouver non seulement la Russie éternelle, mais aussi les sentiments universel qui nous rattrape au 21e siècle.
Cette société dite immobile de la Russie du 19e siècle est à l'époque traversée au temps de Tchekhov. On est dans ce qu'on appelle en France la Belle Époque, hein, les années 1890-1900. Elle est traversée par des mouvements très puissants. D'un côté, un mouvement révolutionnaire qui cherche à se structurer et qui va finir par l'emporter avec la fameuse révolution, d'abord de 1905 puis de 1917. Et puis d'un autre côté, peut-être plus visible encore à l'époque de Tchekhov, ce mouvement capitaliste qui est en train d'investir au sens propre la Russie et de la transformer avec une brutalité incroyable.
Bien sûr, mais Tchekhov c'est aussi pour moi un symbole. La Russie de l'époque au fait a créé toute une civilisation. À vrai dire, c'est une sorte de sommet de la civilisation russe. Regardez les noms qu'on a présentés. Tchekhov, Tolstoï, Dostoïevski, les ballets russes, sans parler des industries extraordinaires de la Russie qu'on peut développer à la fin un sommet qui est exprimé par ces symboles et évidemment c'est bien là. Il y a un autre aspect. Tchekhov, dans ses récits, mais au-delà de ça, il y a une sorte de pressentiment. Il y en a deux qui ont pressenti la tragédie sans nom, quand même, qui va rattraper l'Union soviétique et la Russie. Plus tard, 25 millions de morts dus aux efforts de Lénine, de Trotsky et de Staline. Il y en a deux qui ont senti cette civilisation extraordinaire et festive de Saint-Pétersbourg. Il y avait Tchaïkovski dans sa pathétique. Extraordinaire la musique.
On va entendre,
il a tout compris.
On va entendre un extrait
et Tchekhov,
de la pathétique tout à l'heure.
Tchekhov, en suggérant, il a tout compris. L'atmosphère. Évidemment, il y a quand je vous ai parlé, le souvenir de cette époque, le souvenir de la Russie, mais aussi pour Tchekhov, le plus fort que tout, le souvenir de l'amour. Vous avez commencé à décrire leur rapport quand même épistolaire. Dans les lettres, j'utilise les lettres inédites, mais chez eux, il y avait plus de 500 lettres. Mais j'étais servi. C'est pas seulement le théâtre, mais le souvenir de l'amour. C'est plus fort que la rencontre et même plus fort que l'esprit de l'escalier conventant.
Comme une sorte de nostalgie anticipée à la manière du fado portugais un peu. Voilà ce que Trofimov, hein, l'étudiant exalté, comment est-ce qu'on pourrait le définir, le révolutionnaire de la Cerisaie, parle à Anya, qu'il aime et qu'il agace tout à la fois, bien entendu. Toute la Russie est notre Cerisaie. Lui dit-il, la terre est vaste et belle, il y a beaucoup d'endroits splendides. Alors là, il y a une pause, il y a beaucoup de pauses dans le théâtre de Tchekhov. C'est peut-être d'ailleurs ce qui, avec la douceur des lumières, lorsque c'est bien mis en scène, contribue à cette poésie inouïe. Imaginez, Anya, votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves, ils possédaient des âmes vivantes. Et ne sentez-vous pas, dans chaque fruit de votre cerisaie, dans chaque feuille, dans chaque tronc des créatures humaines qui vous regardent? N'entendez-vous pas leur voix? Posséder des âmes vivantes, mais cela vous a dégénéré, vous tous vivants ou morts, si bien que votre mère, vous, votre oncle, vous ne voyez même plus que vous vivez de dettes sur le compte des autres, le compte de ces gens que vous laissez à peine entrer dans votre vestibule. Nous sommes en retard d'au moins 2 siècles. Nous n'avons rien de rien, pas de rapport défini avec notre passé. Nous ne faisons que philosopher, nous plaindre de l'ennui ou boire de la vodka. C'est tellement clair. Pour commencer à vivre dans le présent, il faut d'abord racheter notre passé, en finir avec lui. Et l'on ne peut le racheter qu'au prix de la souffrance, au prix d'un labeur inouï, sans relâche. Comprenez cela, Anya. Comprenez cela, Anya, ça donne quoi en russe?
Узнай, как это будет. Oui, пойми, как это будет. Tout ça, c'est extraordinaire, parce que le son de coupe de bois, rien que ça. Qu'est-ce qu'on coupe? La cerisaie, mais plus tard au goulag.
Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire.
Avec la symphonie pathétique. Anton Tchekhov est au cœur de l'histoire et Franck Ferrand, vous recevez l'écrivain et ancien diplomate Vladimir Fedorovski, auteur de La Volupté des Neiges, qui paraîtra la semaine prochaine chez Albin Michel.
La Volupté des Neiges. J'ai hésité pour le titre.
Ben, il ne fallait pas parce que c'est un très beau titre.
Merci, vous me réconfortez, Franck.
On avait avec Tchekhov des amours, Tchekhov et Olga bien entendu, des amours tout en finesse, des amours presque épistolaires, quelque chose vous nous dites en demi-teinte, presque non-dit, rien à voir avec les amours tapageuses de l'inépuisable Tolstoï.
Tolstoï, pour moi, c'est vrai, c'est une sorte d'antithèse du livre et j'ai hésité pour les deux. C'est une très longue histoire. C'est plus de 30 ans que j'ai pensé qu'il faut que je fasse ça. J'étais un jeune diplomate, vous dites, en Mauritanie. Et ma mère, quand je partais, m'a donné un journal de Tolstoï. C'est 6 tomes. Comme je n'avais rien à faire pendant 4 ans, j'ai souligné les choses dans le journal. J'ai oublié, parce que dans le journal, il raconte tout, ça, ses manières de vivre, mais surtout, dans le journal, Tolstoï, il raconte tout sur sa vie sentimentale. Et encore à l'époque, à 24 ans, j'ai pensé que c'est un des plus grands écrivains érotiques. Et puis j'ai oublié. Et puis quand je rédigeais ce texte, la nuit, encore une fois, un volume tombe, un signe, et ça s'ouvre sur un épisode. Tolstoï, c'était, je vous ai dit, qu'un DSK mystique, mais il décrit tout. Il décrit tous ses exploits. C'est un écrivain extraordinaire. Il a passé la nuit avec la paysanne qu'il aime, et puis il était une sorte de fétichiste de ses mains. Il embrasse ses mains, il lave ses mains. Il décrit ça. Et ça, c'est sur ce moment-là, j'ai dit, tiens. Et j'ai commencé, et tout ce que j'ai souligné autrefois est réuni. Et on raconte tout, Tolstoï, les tziganes, Tolstoï, surtout, il y a les épisodes quand il était officier au Caucase, inépuisable pour le vrai mot. Ils sont avec Tchekhov à Yalta, ils bavardent. Tolstoï, il a 80 ans.
Et puis, c'est devenu un monument, hein. Il faut dire que c'est une légende vivante, bien sûr. Les gens viennent le toucher comme un saint.
Il était fondateur presque d'une religion, prophète, Romain Rolland, Gandhi, tout le monde, les admirateurs. Il regarde la mer Noire et puis il se retourne vers Tchekhov. Il dit « J'étais infatigable ». Infatigable, Tolstoï. Le paradoxe qu'il décrit tout. Vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est vrai que dans le journal, quand on réunit, il faut dire que ça a beaucoup choqué la femme de sa vie, qui était, elle était vraiment exténuée par ses exploits charnels, il faut dire, 13 enfants, tout ça, elle ne pouvait plus. Et ça, c'est, je dois vous dire qu'il a donné à lire ce journal intime à sa femme. Ça l'a presque brisé, parce que vous avez peut-être remarqué, ça c'est une chose qui m'a frappé quand j'écris La volupté de neige, que les couples extra-conjugaux, ils se cachent et en même temps, quand ça marche, ils veulent que ça se sache. Et c'est exactement Tolstoï. Il se cache et en même temps, il nous livre absolument tout sur ça et c'est une telle force. Il est presque plus fort en décrivant lui-même qu'en décrivant Anne Karénine ou encore Natacha Rostov dans Guerre et Paix.
Alors, dans votre ouvrage, il y a un personnage qui est un auteur démiurgique de la taille, si je puis dire, de Tolstoï, même s'il n'en a pas eu la longévité. Le paradoxe, c'est que ça n'est pas du tout un auteur russe, c'est même le plus célèbre auteur français, mais qui était tombé fou amoureux d'une russe, c'est Balzac.
Polonaise,
à une époque où la Pologne faisait partie de...
Bien sûr, mais au-delà de ça, je vais vous dire, Balzac, dans La volupté de neige, symbolise quelque chose aussi de profond. Vous avez dit l'amour épistolaire. Dans le catalogue de Catherine, il y avait l'amour épistolaire, mais il y avait l'amour, le fantasme. Pourquoi il est présent dans ce livre? Parce que Balzac, il a fantasmé énormément sur
Madame Anska.
Et sur la Russie. Sur la Russie, son fantasme, c'était ça. La Madame Anska, c'est assez banal, mais vraiment volcanique. Il y avait plusieurs rencontres de début, volcaniques, ça marche d'une manière extraordinaire. Puis il y a plus de 10 ans de distance quand ils ne se voient pas, mais ils s'écrivent. Et encore une fois, pour moi, les lettres, c'est les sésames. Parfois les lettres inédites, parfois moins connues, mais les lettres de Balzac, c'est connu. Je le fais parce que le fantasme se réalise au fur et à mesure des lettres. Et finalement, les lettres inédites qui m'ont été données par un personnage absolument illuminé, un fossoyeur du communisme, ancien numéro 2 de Gorbatchev, Yakovlev, il était passionné de Balzac. Il considérait Balzac, et Balzac, il est un des auteurs que les Russes considèrent comme le sien. Et ce livre aussi, il y a un petit clin d'œil par rapport à l'actualité. Vous savez, la crise aujourd'hui, etc., et beaucoup de choses. C'est aussi pour soigner la tristesse de notre époque, évidemment. Mais aussi, il y a un danger de rupture historique avec la Russie. Et quand je mets Balzac, Tolstoï, tous ensemble, je dis, faites attention. Ça n'appartient à personne. Tout ça, c'est une civilisation commune. Les néophytes d'aujourd'hui passeront, les peuples, il reste et l'affinité franco-russe, exprimée par Balzac, évidemment restera jamais.
Le peuple et la culture et cette espèce de fraternité d'âme qu'il y a entre ces deux pays et ces deux cultures, c'est très évident qu'il y a des liens très profond entre la culture russe et la culture française. Il y a tellement de Russes francophiles, mais je vous rassure, Vladimir, beaucoup de Français russophiles également, bien entendu. Alors, si on remonte dans votre ouvrage, on quitte, si je puis dire, les amours épistolaires et littéraires pour réaborder les amours impériales, avec notamment cette relation extraordinaire entre Alexandre II. Alexandre II, c'est l'empereur, hein, c'est le tsar qui abolit l'esclavage. Hein,
abolit l'esclavage, et s'il réussissait, dans ce cas-là, la révolution ne pouvait pas vraiment tomber. Et je dois vous dire que le tsar Alexandre, c'est aussi un hasard. Cette fois-ci, il, encore une fois, affinité franco-russe. Peu de gens savent que la collection épistolaire, quand même, entre le tsar et la femme de sa vie, égérie politique extraordinaire que vous connaissez grâce au film avec Daniel Darieux, Romy Schneider, Katia, exquise, etc. Tout ça, c'est gardé à Paris.
C'est Katia Dolgorouki, en fait.
Dolgorouki, un grand personnage. Une gamine de 17 ans, le tsar vigoureux de 40 ans, tombe amoureux et elle était gênée parce qu'il était tsar. Ça s'est passé, juste un épisode, j'ai retrouvé encore une fois cette lettre, une lettre gardée à Paris. Vous imaginez toute la collection d'Alexandre II, encore une infinité, sont gardées à Paris dans le musée de manuscrits. C'est vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'inépuisable, vraiment, de dire, encore une fois, ils se cachent. Et ils veulent que ça se sache, mais l'épisode qui m'a conquis de début, le tsar vient, et cette petite enfant de 14 ans, il chahute un tout petit peu la directrice de son école. Il a dit, mais vous agissez comme presque une femme. Et on raconte ça au tsar, et elle répond, je suis presque une femme. Cette magnifique femme, c'est la séduction pour l'éternité. Katia, que vous connaissez
magnifique
grâce à
Alors, et Alexandre. Il y en a une qui, elle, femme, agit presque comme un homme, en revanche, et c'est par elle que tout est venu, bien entendu. C'est sans doute ce qui vous a donné envie de parler d'amour à tous les sens du terme. C'est la très célèbre impératrice tsarine Catherine la Grande, Catherine II.
Catherine II, encore une fois, c'est allemande d'origine, mais russe plus que russe. C'est une grande russe. Mais ça, c'est un grand réconfort, parce que justement, quand on m'a donné, il y a beaucoup d'années, toute la collection de lettres de Catherine, gardez au secret, s'il vous plaît. J'étais frappé jusqu'à quel point elle est moderne et elle a établi une sorte de catalogue d'amour. Elle est l'amour total, soyons très clairs, un grand réconfort pour nous tous, parce que dans une seule de ses lettres, il disait que les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans. Et elle a connu l'homme de sa vie à 44 ans, c'était un bon général Potemkin, et après ils se sont échangés des lettres. Et après ces lettres, comment ils font l'amour, de quelle manière?
Mais tellement d'amants chez Catherine,
même
tellement de...
Même pas du tout, Franck, franchement, elle a moins d'amants qu'une Française moyenne. Française moyenne, 11,5, disent les sondages, elle a moins d'une Française. Pourquoi? Et chaque fois, c'est vraiment une de vraie histoire d'amour. Des grands hommes d'État, et puis elle m'a donné... j'utilise ça comme piste, l'amour total avec elle. Vous savez, les amours, je vous dis, les fantasmes, c'était Balzac. L'amour bestial, c'était Tolstoï. La force du souvenir, c'était Tchekhov. Elle m'a suggéré, elle m'a guidé, en quelque sorte. Mais ses lettres avec Potemkin, ça reste pour moi une sorte de sésame d'une modernité. Et l'art de garder qu'enquête. Avec Potemkin, il a eu deux années de passion totale. Et après, il a géré ça, l'amour sage, de quel mal, même il a géré les à côté, ils ont géré ça, tout ça ensemble, pour pousser la Russie au pinacle et créer le plus grand musée du monde, l'Ermitage.
La Volutée des neiges de Vladimir Fedorovski, les grandes amoureuses russes, avec ce dernier chapitre consacré à l'amour unique, en quelque sorte, et merveilleux, entre Olga et Anton Tchekhov. Je vous signale qu'un film sur Tchekhov, un film de René Ferré, ça s'appelle Anton Tchekhov 1890, avec Nicolas Giraud, avec Lolita Chama, Robinson Stevenin, etc., est en salle depuis le 18 mars dernier. Vous l'avez vu,
j'ai adoré, parce que il y a ce jeu, je comprends pourquoi Tchekhov réussit avec les acteurs. Parce que c'est le sens même du théâtre. Et il y a quelque chose de très beau dans ce film.
Et ce théâtre, bien entendu, auquel le cinéma si souvent rend hommage, il sera au cœur de la 27e Nuit des Molières que diffusera France 2. Ce sera donc lundi, hein, si je ne m'abuse, le 27 avril, avec comme maître de cérémonie Nicolas Bedos.
On vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et Franck Ferrand vous répondrait à la question de Nathalie sur l'origine des noms de villes en France.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Nathalie qui, via la page Facebook de l'émission, vous interroge aujourd'hui, Franck Ferrand. Pourquoi le nom des villes normandes finissent en ville, en cour dans l'Est, en hac dans le Sud-Ouest?
Alors il y a des raisons, effectivement, des raisons culturelles et géographiques à cela. C'est vrai que beaucoup des agglomérations normandes, ma chère Normandie, finissent par ville. Ville, c'est tout simplement la villa, villa, hein, c'est la villa gallo-romaine, c'était le domaine rural autrefois. C'est cette façon d'accoler le mot ville au nom des villes, ça remonte vraiment au très haut Moyen-Âge. Pour ce qui est de hac, alors ça vient du celtique hacum, qui désignait l'appartenance d'un lieu à une personne, à une famille, à une lignée. Par exemple, si vous voulez, la ville d'Aurillac, alors effectivement, là on descend dans le centre de la France, dans le Massif central, Aurillac, c'est le domaine d'Aurelius, Albignac, c'est le domaine d'Albinius, etc. Ce suffixe a évolué en fonction des régions, et il a donné naissance à plusieurs familles de toponymes, hein, c'est-à-dire de noms de lieux, dans les régions de langue d'oc, c'est-à-dire grosso modo le sud, le sud-ouest et la Bretagne, ça donne Carnac, Jarnac, Armagnac, Figeac, etc. Et puis dans les régions de langue d'oïl, très souvent le hac est devenu aïe. Et ça a fait tous les noms de villes qui terminent en Y, vous savez, Montmorency, Orly, Morigny, etc., qu'on a dans notre région parisienne. Et puis pour ce qui est de Cours, puisque vous me parliez de toutes ces villes du nord-est de la France. Là encore, c'est une formation romano-germaine. Ça vient du latin curtis, qui désignait l'enclos, la maison, le jardin, si vous voulez. Et puis, à partir du XIIIe siècle, ça désigne d'une façon plus générale l'exploitation agricole. Ben, encore une fois, c'est le lieu de l'exploitation, hein. Et comme pour les autres suffixes, il s'agit en fait de relier un territoire à la personne qui l'occupe. Et donc, vous avez généralement un nom propre suivi de cours, ce qui veut dire tout simplement le domaine de la famille untel. Vous voyez que finalement, si vous faites un petit peu attention, si vous ouvrez les yeux et si vous vous interrogez sur ce qui vous entoure et notamment les plaques des villes, les noms des villes, eh bien vous vous rendrez compte que l'histoire est là, qu'elle est présente et qu'elle continue de palpiter. Marion Ruggieri aussi est là. Bonjour Marion.
Bonjour Franck. Est-ce que vous seriez prêt à couvrir un ami qui a tué quelqu'un?
Oh, vous me posez ces questions à 15h.
Est-ce que vous êtes le genre de garçon qu'on peut appeler au milieu de la nuit?
Un ami, 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 oui, peut-être.
Eh bien, c'est ce qu'on va se poser comme question pendant cette émission. Jusqu'où on peut aller par amitié, l'ami à la vie, à la mort. Est-ce que vous y croyez? Et pour en parler, Thierry Lhermitte et le philosophe Vincent Céspedes.
Merci beaucoup, Marion. Nous nous retrouvons demain, Ombline.
À demain, Franck.